Sébastien Roch. Première partie, chapitre 7. Une petite chambre mansardée sous les toits. Le silence est profond. Le mouvement, la vie du collège, arrêté par des murs, des cours, de hautes bâtisses, ne pénètrent pas jusque-là. Un lit de fer étroit, garni de rideaux blancs. Entre les deux fenêtres contre le mur, une sorte de table-bureau, avec du papier, un encrier, deux volumes, les récits du voyage au Tibet par le père Huc. Sur la cheminée, une statue en plâtre de la Vierge. Telle est cette chambre. C'est là qu'est Sébastien, depuis une heure à peine, séparé de ses camarades, amené par un petit frère osseux et jaune, qui secouait des clés en sa main, comme un geôlier. Et il examine étonné ses meubles, et il écoute, craintif, en silence. Tout à l'heure, un autre petit frère, gras celui-ci, et ventru, est venu lui apporter son dîner. En vain Sébastien a-t-il tenté de l'interroger. Le petit frère a fait des gestes mystérieux, est reparti sans répondre, et il a refermé la porte au verrou. Il est midi et demi, l'heure où les élèves quittant le réfectoire vont à la récréation. Le petit prisonnier ouvre l'une des fenêtres, cherche à s'orienter. De tous les côtés, les toits bornent son horizon, hérissés de cheminées et de tuyaux noirs. Au-dessus est le ciel d'un blanc laiteux, troué d'azur pâle. Au-dessus, sur une façade grise, des alignées de fenêtres descendent, et la cour est en bas, plus triste, plus humide, plus sombre qu'un puits, une cour froide que traversent des gens de service, avec des calottes noires sur la tête et des tabliers sales, battant sur les jambes. Tout à coup, vers sa gauche, il entend une rumeur confuse, un lointain bourdonnement. Ce sont les élèves qui jouent dans les cours. Et le cœur serré, il pousse un long soupir. En ce moment, il pense à Bolorec que le même frère, jaune et osseux, est venu chercher aussi et qui l'a emmené. Où peut-il être? S'il pouvait le voir. Du regard, il fouille les fenêtres en face de lui. Mais les fenêtres sont obscures, elles ne laissent rien transparaître de ce qui se passe derrière leurs prunelles opaques. Très intrigué, il va s'asseoir devant la table, et la tête dans ses mains, il songe. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Pourquoi est-il là? Vaguement, il pressent que le père de Kern n'est pas étranger à cette nouvelle aventure. Mais comment? Tandis qu'il songe, il remarque des mots gravés au canif dans le bois de la table et noircis à l'encre. Ce sont des prières, des invocations, dont plusieurs sont à demi usées par de successifs frottements. Sébastien lit « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» et donnez-moi la force de supporter votre justice. Et encore, mon Dieu, j'ai péché, il faut que je sois puni, mais épargnez mes parents. Ô cher petit père, ô chère petite mère, ô chère petite sœur, pardonnez-moi de vous causer tant de peine. Et encore, mea culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. Ces prières sont toutes signées en grosses lettres profondes, juste Durand. Sébastien se souvient que Juste Durand a été chassé du collège. Il pâlit. Une douleur aiguë lui traverse l'âme. Lui aussi va être chassé. Mais pourquoi? Et le voilà reconstituant, minute par minute, l'histoire de sa vie, depuis le pèlerinage de Sainte-Anne. 4 jours se sont écoulés, 4 jours de lourdeur, d'hébétement, pendant lesquels son esprit a pu sommeiller un peu. Le père de Kern ne lui a plus reparlé. Il est évident qu'il l'évite. Même à l'étude, il ne rencontre plus son regard. Se repent-il vraiment? En tout cas, il est soumis. Sébastien a glissé en cachette, dans sa cellule, une lettre par laquelle il lui défend, il le supplie de ne plus lui adresser jamais la parole. Et le père obéit. Libéré de ce regard, de cette voix, de ces incessantes poursuites, il a voulu se livrer, avec application au travail, suivre attentif les leçons de ses professeurs. Mais son attention est sans cesse distraite par des choses pénibles. Sa faute est trop proche encore, il ne peut l'oublier. Même dans l'accablement où il reste plongé, des frissons, des sursauts, de cruelles angoisses le troublent et le font souffrir. Certes, il est plus calme, pas assez cependant pour que, de temps à autre, les images ne reparaissent, attisant le feu dans ses veines, précipitant dans sa chair le poison. Il a pu prier, et cela l'a soulagé. Durant les récréations, il n'a pas quitté Bollorec. Malgré tout, Bollorec le sauvegarde, parce qu'il l'intrigue, parce que quelquefois aussi, il le fait rire à cause de la brusquerie sauvage de ses questions, de l'imprévu de ses réponses et de son silence, si plein de choses. Tous les deux, ils sont revenus s'asseoir comme jadis sous les arcades, près des salles de musique. Bollorec sculpte et souvent il chante. Sébastien le regarde sculpter et l'écoute chanter. Cela le berce, cela l'arrache aux obsessions dévorantes. Hier, pendant qu'il sculptait et qu'il chantait, Bollorec s'est interrompu soudain et il a dit « Oh, que je m'embête ici! Que je m'embête! Et toi? Oh, moi aussi je m'embête !» a répondu Sébastien. « Non, je m'embête trop, trop, trop !» Après une pause, Bollorec a repris. « Eh bien, j'ai pensé à une chose. Cette fois-ci, il faut nous en aller. » Ces mots, pareils à une brise amicale, ont apporté aux narines de Sébastien des odeurs de champ, des fraîcheurs de source. Ces mots, pareils à une gaie lumière, lui ont mis dans les yeux une vision d'espace libre. Mais l'enthousiasme s'est vite évanoui. « Nous en aller? Où ça ?» Alors, Bollorec, très grave, a tracé dans l'air avec ses bras courts un grand geste, comme s'il embrassait tout l'univers. « Où ça? Nous en aller, quoi? Écoute, mercredi à la promenade, nous nous cacherons, et puis, quand ils seront partis, nous attendrons la nuit et nous ficherons le camp. » Sébastien est demeuré songeur. « Oui, mais les gendarmes nous reprendront, et puis il faut de l'argent. »« Eh bien, nous en volerons. Tu n'as jamais volé, toi ? Moi, si, j'ai volé. J'ai volé un jour un lapin à une vieille femme. »« C'est mal de voler, il ne faut pas voler. »« Pas voler ?» a répondu Bollorec en haussant les épaules. « Ah, bien !» Pourquoi avait-elle un lapin? Pourquoi Ker Daniel a-t-il de l'argent plein ses poches? Une montre en or, et que nous n'avons pas d'argent, nous autres. Ni de montre en or, ni rien. Quoique nous soyons dans le même collège. Je lui volerai de l'argent, moi, à Ker Daniel, et nous partirons. Mais pour où? S'est obstiné Sébastien. Je ne sais pas, moi, pour chez nous. Alors nos parents nous renverront dans un autre collège. Eh bien, ce ne sera pas celui-là. » Et Sébastien a poussé un gémissement. « Oui, et nous ne serons plus ensemble. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi ?»«
Tu deviendras. Alors tu ne veux pas partir ? Tu aimes mieux qu'on t'engueule toujours et moi qu'on me fiche des coups parce que toi, ton père est quincailler et que moi, mon père est médecin ?
Je ne dis rien parce qu'ils sont plus forts que moi.
Mais attends, j'ai un grand-oncle qui était chef pendant la Révolution. Il tuait les nobles. Papa est royaliste et il le traite de brigand. Mais moi, je l'aime, mon grand-oncle. »
« Il tuait des nobles ?» a répété Sébastien, effrayé du regard de haine qu'avait Bolorec en parlant.
« Oui, oui, il tuait des nobles. Il en a tué plus de 500.
Je l'aime bien, mon grand-oncle. Je pense à lui toujours. Si la Révolution revient, moi aussi j'en tuerai, va. Et j'en tuerai aussi des jésuites !»
Bolorec a continué de parler de son grand-oncle et il n'a plus été question de s'en aller. Sébastien se rappelle cette conversation, dont chaque mot lui revient, accompagné des farouches grimaces de Bolorec. Peut-être l'a-t-on entendu. Pourtant, il est sûr qu'il n'y avait personne autour d'eux, et ils ont causé tout bas. Chaque fois qu'un élève est passé sous les arcades, qu'il est entré dans les salles de musique, ou qu'il en est sorti, ils se sont tus, méfiants. Et tous jouent dans la cour très loin, et les pères se promènent là-bas, le long des barrières, sous les ormes. Il est certain de ne pas se tromper, aucun ne les a entendus. Après une précision méticuleuse de mémoire, il se revoit assis sur les marches, il revoit Bolorec près de lui, sa figure rouge et son regard enflammé. Il revoit la cour, il revoit tout, jusqu'à une troupe de moineaux qui picorait le sable, effronté et railleur. Il se rappelle ensuite qu'à un moment, une des salles de musique est restée ouverte. Personne dans la salle. Sur une chaise devant un pupitre, un violon repose. Bolorec ne dit rien. Lui considère le violon. Ce violon l'attire, le fascine. Il voudrait le tenir dans ses mains, ne fût-ce qu'un instant. Il voudrait en arracher des sons, le sentir vibrer, palpiter, se plaindre et pleurer. Pourquoi n'entrerait-il pas dans cette salle ? Pourquoi ne prendrait-il pas le violon ? Aucun œil indiscret ne le guette. Ce coin de la cour est désert, absolument désert.
« Viens avec moi, » dit-il à Bolorec, « nous jouerons du violon. »
Tous les deux, s'effaçant de leur mieux, se glissent dans la salle, dont ils referment la porte à moitié. Sébastien a saisi le violon, l'a tourné, retourné, s'étonnant de sa légèreté. Il en a serré les clés, en a pincé les quatre cordes qui rendent des sons discordants et grêles. Puis, il est resté tout bête devant ce violon, qui n'est plus en ses mains qu'un instrument inerte ou grinçant. Et il a éprouvé une tristesse infinie de savoir qu'une âme est en lui, qu'un être magnifique d'amour et de souffrance dort dans sa boîte creuse, et qu'il ne pourra jamais l'animer, cette âme, ni l'éveiller, ce rêve. Et une voix intérieure lui dit « N'es-tu point pareil à ce violon ? Comme lui, n'as-tu pas une âme ? Et les rêves, n'habitent-ils point le vide de ton petit cerveau ? Qui donc le sait ? Qui donc s'en inquiète ? Cela qui devrait faire résonner ton âme et s'épanouir tes rêves, ne l'ont-ils pas laissé dans un coin, tout seul ? Semblable à ce violon abandonné sur une chaise, à la merci du premier passant qui, pour s'amuser une minute, curieux, ignorant ou criminel, s'en empare et on brise à jamais le bois fragile. Fée, pour toujours chanter.
Découragé, Sébastien remet le violon à la place où il l'a trouvé et sort, suivi de Bolloré qui le regarde d'un air ironique.
Mais au moment juste où tous les deux franchissent la porte, le père de Kern, les frôlant presque de sa soutane, passe sans s'arrêter, sans détourner la tête. Instinctivement, il se rejette en arrière dans la salle. Les yeux sur son bréviaire, le père continue sa marche lente jusqu'au fond des arcades qu'il quitte pour remonter du même pas tranquille vers le haut de la cour. Sébastien, interdit, demande.
« Crois-tu qu'il nous ait vus ?»«
Eh bien, quand il nous aurait vus, qu'est-ce que ça fiche ?»«
C'est vrai, qu'est-ce que ça fiche ? Ils n'ont point fait de mal. » Et toute la journée, il a pensé au violon, si triste sur la chaise. Le soir, préoccupé de la brusque rencontre du père, il l'a cherché, sournoisement, à lire dans ses yeux, à surprendre dans son attitude, s'il n'y a point quelque chose de changé, quelque chose de plus sévère qui dise « Je vous ai vu ». Son attitude est la même. Ses yeux, indifférents et paisibles, errent à travers la vaste pièce qu'emplit un bruit de travail, de papiers froissés, de livres feuilletés, de plumes grinçantes. Pas une minute ils ne se sont posés sur lui. Et voilà que ce matin, un petit frère, le petit frère jaune et osseux, est venu à l'étude et il a emmené Bolloré. Puis, un quart d'heure après, il est revenu et il a emmené Sébastien. Sébastien, très rouge, a traversé l'étude, parmi les têtes levées, intrigué. Il a même sur son passage entendu des chuchotements, des « kiss, kiss, kiss » insultants et féroces. Par-dessous son pupitre, Guy de Kerdaniel lui a allongé un croc en jambe qu'il a fait trébucher et il a murmuré entre ses dents « Salaud, salaud !» Le père de Kern est accoudé sur sa chaise haute, le buste oblique, le front calme, un livre ouvert devant lui. Comme les murmures grandissent autour de Sébastien, il agite sa sonnette et d'une voix ferme commande le silence. De même que dans la nuit fatale, Sébastien a gravi des escaliers, traversé des couloirs, des paliers sombres, des recoins louches. Où va-t-il ? Il n'en sait rien. À ces interrogations, le frère est resté muet, gardant inflexiblement, dans les plis ignobles de ses lèvres mal rasées, un sourire insidieux de mauvais prêtre. Ce frère cause à Sébastien une irritante répulsion. Sa longue redingote crasseuse exhale une odeur combinée de latrine et de chapelle. Son pantalon tombe en plis crapuleux sur des chaussons de misère, troué à l'orteil. Son dos est servile. Son double regard, lâche et fourbe, s'embusque à l'angle des paupières. Il y a en cet homme un odieux mélange de geôlier, de domestique, de sacristain et d'assassin. Sébastien éprouve un soulagement véritable à son départ. Maintenant, il est dans cette chambre, dans cette prison, seul, enfermé. Il devine qu'il va s'accomplir, en ce lieu, quelque chose d'irréparable. Mais quoi ? Cela l'exaspère de ne pas savoir. Pourquoi ses frères ont-ils refusé de lui répondre ? Pourquoi le laisse-t-on dans cette anxiété cruelle, entre des murs qui le glacent ? Il écoute.
Le bourdonnement des cours a cessé. Au-dessus des toits immobiles et des impénétrables fenêtres, des nuages passent, seuls mouvants, seuls vivants. Et derrière la porte verrouillée, c'est le silence, à peine troublé de temps à autre, par des pas glissants sur les dalles du couloir. Jamais il n'a senti aussi lourdement sur son crâne, sur ses épaules, sur ses reins, sur tout son corps et sur toute son âme, le poids accablant du collège, l'étouffement de ses murs, l'écrasement de cette discipline, le froid visqueux de cette ombre. Du millier de petites existences qui sont là, de tout ce qui pense, de tout ce qui rêve, de tout ce qui respire là, aucun souffle n'arrive, aucun bruit, rien, rien. Que le pas ennemi d'un surveillant qui va, rasant les murs, écoutant aux portes, hideuse sentinelle. Et ses yeux rencontrent de nouveau les inscriptions de la table, les prières naïves et déchirantes de Juste Durand. Ô bonne mère Sainte-Anne, faites un miracle pour moi, épargnez à mon petit père, à ma petite mère, à mes petites sœurs chéries, la honte que je sois renvoyée du collège. Ô bonne mère Sainte-Anne, et vous aussi, Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, je vous implore. Son cœur s'émeut d'une tendresse indicible, d'une ineffable pitié pour ce Juste Durand qu'il n'a pas connu et qu'il aime à cause de cette douleur, sœur de la sienne. Où est-il aujourd'hui? Ses parents l'ont peut-être embarqué, peut-être l'ont-ils enfermé dans une maison de correction. Il est peut-être mort. Tandis qu'il s'apitoie sur le sort de Juste Durand et de tous ceux qui ont passé dans cette chambre et n'ont pas laissé leur nom gravé dans le bois de la table, la porte s'ouvre. C'est le petit frère gras et ventru qui entre, un épais sourire sur les lèvres. Je suis chargé de vous conduire devant le très révérend père recteur. Mais vos cheveux sont très en désordre. Il faut vous peigner un peu. Du reste, voilà toutes vos petites affaires, monsieur Sébastien Roch. » Le frère dépose un paquet sur la table, et Sébastien reconnaît ses objets de toilette, son peigne, ses brosses, son éponge. « Na ! Et tantôt, vous aurez une cuvette et un broc plein d'eau. Arrangez-vous, monsieur Sébastien Roch. » « Savez-vous, demande Sébastien, si je dois rester longtemps ici ?»«
Je ne sais rien, moi, monsieur Sébastien Roch, proteste le frère en un geste humilié. « Je ne dois rien savoir. Il m'est interdit de savoir quelque chose. »« Et Juste Durand, est-il resté longtemps? Vous l'avez connu ?»«
Ah, le cher enfant !» C'est moi qui lui apportais ses repas et qui le promenais. Il a été bien édifiant. Il pleurait. C'était à fendre l'âme.
Et Bolorec, où est-il?
Je ne sais pas. Allons, vous êtes prêts et bien propres comme ça. Venez.
Sébastien suit le frère, une angoisse au cœur, les jambes toutes molles. Le cabinet du père recteur était une pièce assez vaste, austère, dont les trois fenêtres donnaient sur la cour des grands. Un large bureau d'acajou
encombrée de papiers, un haut cartonnier, une petite bibliothèque garnie de livres usuels, deux fauteuils de chaque côté de la cheminée, et sur les murs, ça et là, le portrait du pape, l'image vénérée de saint Ignace, et divers objets de sainteté, toutes choses de forme carrée, en composé le mobilier, rigide et propre. Lorsque Sébastien entra, le père était assis à contre-jour, les jambes croisées sous la soutane, et il examinait une liasse de papier. Sans lever la tête, il indiqua du geste une chaise où Sébastien s'assit, ou plutôt s'effondra. Et durant quelques secondes, il continua son examen. Sa barrette reposait sur un coin du bureau. Il était nu-tête. Le visage presque entièrement noyé d'ombre bleuâtre et le contour de toute sa personne se découpaient net, élégant et fort, sur la clarté blanche de la fenêtre. Le père recteur ne se prodiguait pas aux élèves, sur lesquels, cependant, il exerçait un prestige considérable. Lorsqu'il apparaissait dans les cours, à l'étude, à quelques cérémonies, sa présence était un événement et faisait sensation. Il se montrait, en toutes circonstances, plein de douceur et environné de majesté. Interpellé par son nom chaque élève, félicité celui-ci, encourager celui-là, réprimander cet autre, toujours à propos, d'un ton où le laisser-aller paternel n'abdiquait jamais l'autorité du maître. Cette sûreté de ce coup d'œil, cette extraordinaire mémoire, cette connaissance approfondie qu'il avait des défauts et des qualités de chacun, n'était pas un des moindres étonnements qui le faisait vénérer et craindre de ses collégiens. Aussi le tenait-on pour quelqu'un de plus qu'un être humain. Il était avec cela d'une beauté rare, d'une prestance vraiment royale. Et sous l'ascétisme mondain, grave et désabusé, de sa physionomie, il y avait une fleur vivante et charmante d'ironie, dont l'éclat triste tempérait ce que son regard avait parfois de sécheresse et d'impénétrabilité. Très soigné en sa mise, il savait relever d'un discret détail de toilette, col blanc, chaussures bien faites, la monotonie du costume ecclésiastique. Sans savoir pourquoi, on l'aimait extrêmement, et cette affection se transmettait, presque administrativement, comme un héritage des anciens aux nouveaux. Au jour de sa fête, célébrée en grande pompe par tout le collège, les anciens élèves accouraient de très loin, perpétuant ainsi l'enthousiasme d'un amour dont personne n'eût pu expliquer la cause, si ce n'est par ce motif qu'il faisait partie de l'éducation, comme le latin. Aucun établissement de jésuites ne pouvait se vanter de posséder à sa tête un pareil recteur. Des légendes impressionnantes circulaient sur lui, grossies chaque année de faits admirables et mystérieux. Il aurait pu, affirmait-on, commander une province depuis longtemps, mais il préférait rester au milieu de ses chers élèves, qu'il voyait, du reste, le moins possible. Enfin, il passait toutes ses vacances à Rome, où il avait des entrevues fréquentes avec le Saint-Père, qui tenait son caractère et son exceptionnelle intelligence en particulière estime. Sébastien comprit la gravité de la situation, se vit perdu, condamné. Il se sentit si petit, si misérable, si écrasé devant ce jésuite, solennel et puissant, qui tenait en ses mains tant de destinées, dont le regard insoutenable avait plongé au fond de tant d'âmes, au fond de tant de choses, qu'il abandonna instantanément, quoi qu'il pût arriver, toute idée de défense et de lutte. Il n'y avait rien à espérer de la pitié de cet homme. Rien ne pouvait émouvoir ce front de marbre, ces lèvres incorruptibles, cet œil pâle. Et, si ignorant qu'il fût de l'histoire de la société de Jésus, il eut l'intuition confuse, irraisonnée, de ce que ce prêtre représentait de formidable, d'inexorable. que devait peser dans sa justice, dans ses combinaisons inconnues, la vie d'un enfant. D'avance, il se résigna aux pires douleurs, et le corps tassé sur sa chaise, les épaules hautues, il attendit, presque insensible, ce qu'allait lui révéler le père recteur. Celui-ci posa ses papiers sur le bureau, s'accouda au bras du fauteuil et croisa les mains. « Mon cher enfant, prononça-t-il, j'ai à vous faire une triste communication. Triste pour vous, triste pour nous surtout, dont le cœur se déchire, croyez-le bien. Nous ne pouvons plus vous garder au collège. » Comme Sébastien faisait un geste vague, le père ajouta, plus vite, avec une émotion dont le ton factice grinça sur les nerfs de l'enfant, comme un doigt qui glisse sur du verre mouillé. « Ne me demandez aucune grâce, ne m'implorez pas. Ce serait me causer une inutile douleur. Notre résolution est irrévocable. Nous avons charge d'âme. Les pieuses familles qui nous confient, purs, leurs enfants, exigent que nous les leur rendions purs. Nous devons être impitoyables pour les brebis galeuses et les renvoyer du troupeau. » Et hochant la tête, il soupira d'une voix triste. « Après votre première communion, qui nous touche à tous, comment s'attendre à un tel scandale ?» Sébastien ne comprenait rien aux paroles du père recteur. Il comprenait qu'on le chassait, voilà tout. Mais pourquoi le chassait-on ? Était-ce pour sa conversation avec Bolorec ? Était-ce à cause du violon ? Le doute demeurait le même qu'auparavant. Il avait beau chercher, il ne trouvait rien de plausible. L'idée que le père de Kern avait pu combiner ce drame, le dénoncer afin de se débarrasser de ses exaltations, de ses trop violents repentirs, ne venait pas à son esprit candide, trop ignorant du mal pour soupçonner tant de noirceur. On le chassait, voilà qui était positif. Depuis que le père avait parlé, il se sentait soulagé, non pas content, mais soulagé véritablement, plus libre de respirer et de se remuer sur sa chaise. On le chassait. Mais alors, leur désir se réalisait à Bolorec et à lui. Il allait quitter le collège, ces murs étouffants, cette hostilité, cette indifférence, le père de Kern. Qu'importait la raison, qu'importait aussi l'avenir. Où qu'on le mît, jamais il ne serait plus malheureux qu'il avait été, plus abandonné, plus méprisé, plus souillé. C'est pourquoi il ne songea pas à protester contre l'arrêt sommaire qui le frappait, ni à en demander l'explication. Le père recteur reprit. « Maintenant, mon cher enfant, songez bien à ceci. Toutes les fautes sont rachetables pour qui veut sincèrement se repentir et bien vivre dans les commandements du Seigneur. Malgré votre péché, nous vous gardons de la tendresse. Et chaque jour, nous prierons pour vous. Nous vous suivrons de loin dans votre nouvelle existence, car nous n'abandonnons pas les fils, même coupables, que nous avons élevés, qui ont grandi sous notre protection et notre amour. Si plus tard, vous êtes malheureux et que vous vous souveniez des jours d'enfance écoulés dans la paix de cette maison, venez frapper à cette porte, elle s'ouvrira toute grande, et vous trouverez des cœurs amis, familiers avec la douleur, avec qui vous pourrez pleurer, car vous pleurerez. Allez, mon enfant. » Sébastien écoutait à peine cette voix, dont il sentait la tendresse chaude, l'émotion voulue. Il regardait par la fenêtre, entre l'écartement des rideaux, un angle de cour, et les ormes grêles au pied desquels tant de fois il avait sangloté. Il se leva sans mot dire et fit quelques pas vers la porte. Le père le rappela. « Votre père ne pourra être ici que dans 4 jours. Désirez-vous faire quelque dévotion particulière? Avez-vous quelque chose à me demander ?»
Sébastien pensa tout à coup à Bolorec, seul aussi, dans une chambre verrouillée, et, surmontant sa timidité,
« Je voudrais voir Bolorec avant de partir, lui dire adieu. »«
Ce n'est pas possible, » refusa le père d'un ton plus sec. « Et si vous tenez à conserver un peu de notre sympathie, je vous engage à oublier jusqu'à ce nom. »«
Je voudrais voir Bolorec, » insista Sébastien. « Lui seul a été bon pour moi. Quand j'étais triste et qu'on me faisait de la peine, il ne m'a jamais repoussé, lui. » Je voudrais lui dire adieu, parce que je ne le reverrai pas. »
Mais le père s'était remis à son bureau et ne l'écoutait plus. Sébastien sortit. Le frère l'attendait à la porte en marmottant son chapelet. Il le reconduisit dans sa chambre, où il fureta, examinant si tout était bien à sa place. « Désirez-vous quelque chose, monsieur Sébastien Roch ?» lui demanda-t-il au moment de refermer la porte. « Voulez-vous des livres ? La vie de saint François Xavier, notre saint patron ? C'est très amusant. »«
Ah, si vous souhaitez que je vous mène à confesse... »«
Non, mon frère. »
« Vous avez tort, monsieur Sébastien Roch. Une bonne confession, voyez-vous. Il n'y a rien qui vous remette comme ça. Monsieur Juste Durand s'est confessé au moins 6 fois en 4 jours. Ah, le cher enfant! Et quand j'entrais ici, il était toujours à genoux et se frappait la poitrine. Mais aussi, quelle consolation!
On l'a renvoyé tout de même. »
Oui, mais quelle consolation!
Demeuré seul, Sébastien s'étendit sur son lit. Il était plus calme, s'étonnait de ne pas souffrir, d'accepter presque comme une délivrance la honte publique d'être chassé du collège. Une seule chose le tourmentait, c'était de ne pas revoir Bolorec, de ne pas même savoir où on l'avait relégué. Et longtemps, il pensa, avec attendrissement, à ses chansons, à ses petits morceaux de bois, à ses jambes trop courtes qui peinaient durant les promenades, à cet étrange mutisme qu'il gardait parfois plusieurs journées et qui se terminait par une crise de révolte, où le rire cruel alternait avec la colère sauvage. De ces 3 années, si longues, si lourdes, Sébastien n'emporterait qu'un souvenir doux, celui de quelques heures vécues, près de ce bizarre compagnon qui lui était encore une énigme. De toutes ces figures, une seule lui demeurerait chère et fidèle, la figure pourtant si laide, molle et ronde, de Bolorec, cette figure tout en grimaces, effarée, effarante, avec des yeux derrière lesquels on ne voyait jamais rien de ce qui se passait réellement dans son âme, et qui s'illuminait soudain de lueurs mystérieuses. Il s'arrêta aussi avec complaisance sur le pauvre Le Toulic, piochant sans relâche, tâchant de se faire pardonner, à force de travail, l'aumône de la pension, supportant héroïquement les cruautés de ses camarades, comprenant qu'il fallait redonner à sa mère inconsolée un peu de l'espoir détruit, un peu du bonheur perdu. Et il sourit à la vision disparue, si jolie, des 2 sœurs là-bas, sur la place.
mais à côté de ses souvenirs doux et de ses figures chères, rendues plus doux encore et plus chères par la parité du malheur, que d'odieux souvenirs, que de figures détestées. Des camarades féroces et frivoles, des maîtres indifférents et fourbes, le mensonge installé en maître, le mensonge des tendresses, des leçons, des prières, le mensonge partout, coiffé d'une barrette et soutané de noir. Non, les petits comme lui, les humbles, les pauvres diables, les anonymes de la vie et de la fortune, n'avaient rien à espérer de ces jeunes garçons, sans pitié, corrompus en naissant par tous les préjugés d'une éducation haineuse. Rien à attendre de ces maîtres sans amour, serviles, agenouillés devant la richesse comme devant un dieu. Qu'avait-il appris ? Il avait appris la douleur et voilà tout. Il était venu, ignorant et candide. On le renvoyait, ignorant et souillé. Il était venu, plein de foi naïve. On le chassait, plein de doutes harcelants. Cette paix de l'âme, cette tranquillité du corps qu'il avait en entrant dans cette maison maudite, un vide atroce, dévorant, les remplaçait. Avec ce qu'il apporte de remords, de dégoût, de perpétuelles angoisses. Et tout cela s'accomplissait au nom de Jésus. On déformait, on tuait les âmes d'enfants au nom de celui qui avait dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », de celui qui chérissait les malheureux, les abandonnés, les pécheurs, de celui dont chaque parole était une parole d'amour, de justice et de pardon. Ah, leur amour à eux, leur justice et leur pardon, ils les connaissaient maintenant. Il fallait être noble ou riche pour y avoir droit. Quand on n'était ni noble ni riche, il n'y avait plus d'amour, plus de justice, plus de pardon. L'on vous chassait et l'on ne vous disait pas pourquoi. Sébastien, remontant des faits généraux aux particularités, ne rencontrait autour de lui que des petitesses de sentiment, que des petitesses d'intelligence, dont il ne pouvait s'empêcher de sourire. Il se rappelait qu'une fois, il avait été puni de 8 jours d'arrêt pour avoir écrit dans une composition « L'enfant qui sort de ses flancs déchirés ». Ah ! La stupeur rougissante des élèves et l'indignation du professeur quand celui-ci lut tout haut ce passage. L'enfant qui sort de ses flancs déchirés. Quel scandale dans la classe! Son voisin s'était écarté de lui. Une rumeur avait parcouru les bancs. Où donc avez-vous appris de pareilles inconvenances, de pareilles malpropretés? C'est une honte, et vous exprimez des idées que vous devriez ignorer. Je vous engage à vous surveiller. Il rêvait. C'était donc un crime de rêver? Il cherchait des mots jolis, parés, vivants. C'était donc défendu? C'était d'ailleurs les seules observations que lui eût jamais adressées son professeur. Le reste du temps, il ne s'occupait pas de lui, le laissait croupir au bout de sa table, réservant pour les autres son attention et sa patience bienveillante. On l'avait jugé un esprit dangereux, insoumis, dont il serait impossible de tirer rien de bon. Le père Dumont disait, avec un luxe de métaphore hardie, « C'est un petit serpent que nous réchauffons dans notre sein. » Il n'est encore que couleuvre, mais attendons. Là où il y avait une faveur quelconque, il en était exclu. Jamais il n'avait pu entrer dans une congrégation et dans une académie. Même au repas, on s'arrangeait pour qu'il fût servi le dernier et qu'il n'eût que ce que les autres de la table avaient dédaigné.
« Et leur loterie, » pensait-il, « je n'y ai rien gagné. C'est Guy de Kerdaniel qui emporte toujours les gros lots. »
Toutes ces petites rancunes, toutes ces petites déceptions, tous ces petits froissements, il les exagérait, les grossissait, s'excitant à la jalousie contre les élèves, à la haine contre les maîtres, afin de se donner du courage. Mais il n'y parvenait pas. À mesure que s'envolaient les minutes, les inquiétudes renaissaient, des appréhensions de l'avenir se levaient, grosses de menaces et d'ennuis. L'entrevue avec son père, le voyage, l'emmurement dans la maison de Père Vanchère, la honte qui l'attendait là-bas, la honte qu'il laisserait ici, tout cela troublait sa fausse sécurité, dominait ses rancœurs. Et puis, il avait beau se dire qu'il lui serait désormais impossible de vivre en ce milieu hostile, où tout lui parlerait de sa faute, il s'y sentait de puissantes racines, l'attachement des bêtes pour le coin de terre où elles ont souffert. Il ne comptait que les souffrances, mais n'avait-il pas goûté des joies aussi, des joies précieuses qu'il ne pouvait pas ne point regretter? Retrouverait-il la mer, les retours de Pinboc, les musiques de la chapelle, Bolorec, et même, quoiqu'il ne voulût point se l'avouer, les soirées délicieuses à la fenêtre du dortoir, quand le père de Kern lui récitait des vers et lui parlait des œuvres immortelles. Il rêva ainsi jusqu'au soir, tantôt résigné, tantôt révolté. Un moment, bien décidé à exiger du père recteur des explications, et la minute d'après, se disant « À quoi bon ? Il vaut mieux que je parte, ce sera 8 mauvais jours à passer, et je serai peut-être très heureux loin d'ici. » Lorsque le frère vint lui apporter son repas, il le trouva sur son lit, étendu, les yeux perdus dans le vague d'une songerie.
« Comment ? Monsieur Sébastien Roch ! » s'exclama-t-il. « Et moi qui comptais vous surprendre en prière ? Ah ! Ah ! Ah ! Ce n'est pas Monsieur Juste Durand qui se fût étendu sur son lit, le cher enfant ! Et je parie que vous n'avez pas de chapelet !
Non, mon frère, je n'en ai pas.
Pas de chapelet ! Pas de chapelet ! Et moi qui vous apporte une poire, Monsieur Sébastien Roch, une poire cueillie à l'arbre des révérends pères. Pas de chapelet, ô grand saint Labre. Et comment voulez-vous avoir le cœur tranquille? Je vais vous prêter le mien, j'en ai 12.
Je veux bien, mon frère. Seulement, vous me direz où est Bolorec.
Monsieur Bolorec, mais je ne sais pas, Monsieur Bolorec. Et où il est? Vous êtes où vous êtes? Je suis où je suis? Et le bon Dieu est partout. Voilà ce que je sais, monsieur Sébastien Roch. »
Et Sébastien, se levant de son lit, brusquement interrogea. « Voyons, mon frère, dites-moi pourquoi l'on me renvoie. »«
Pourquoi l'on vous ? »
s'écria le frère, qui joignit les mains.
« Ah, grand saint François-Xavier ! Mais je ne sais pas si l'on vous renvoie. » « Je n'en sais rien, moi, et comment voulez-vous qu'un frère, c'est-à-dire une créature moins importante qu'un rat, qu'un asticot, qu'une anémone de mer, sache quelque chose ? Ce n'est pas Monsieur Juste Durand qui m'eût adressé de pareilles questions. Le cher enfant !»
Dans cette claustration, dans ce silence, dans cette laideur des choses, ces 4 jours furent pénibles à Sébastien. Le matin, il entendait la messe dans une petite chapelle solitaire. L'après-midi, au moment des classes, durant une heure, il se promenait au jardin ou dans le parc, conduit par le frère onctueux, bavard, mais inflexible dans sa consigne. Il ne tentait plus de l'interroger, comprenant que c'était inutile, et il restait silencieux, marchant à côté de ce gros bonhomme vite essoufflé, qui, pour reprendre haleine, s'arrêtait tous les 100 pas. « Tenez, monsieur Sébastien Roch, disait-il, regardez quel beau poirier et quelle poire! Cette année personne n'a de fruits, il n'y a qu'ici. Le bon Dieu protège nos arbres, le bon Dieu est bon, allez! Ah, qu'il est bon !» Dans le parc, devant les statues de la Vierge, les autels rustiques, les grottes ornées d'images pieuses, le frère haletant commandait. « Allons, une petite prière, monsieur Sébastien Roch !» Et il s'agenouillait, le frère faisant de grands signes de croix, Sébastien, les yeux perdus au loin, aspirant l'odeur des feuillages, écoutant les bruits. Entre les troncs, entre les feuilles, par-delà les terrasses, dans l'éloignement, s'étendait la façade du collège, muette et grise, sommée du mensonge de sa croix. Jamais il ne croisait aucun être vivant. Dès qu'au tournant d'une allée, ils apercevaient la silhouette d'un père, ils rebroussaient chemin ou s'enfonçaient dans une sente. Sébastien crut reconnaître une fois le père de Marelle. Une autre fois, il s'imagina voir Bolorec qui passait, accompagné d'un frère comme lui. « mais non, ce n'est pas ça !» protestait le frère. « Ce n'est rien du tout. Et que voulez-vous que ce soit, monsieur Sébastien Roch ?» Le reste de la journée, enfermé dans sa chambre, il employait les heures interminables à rêver, à se désoler, à regarder les nuages fuir au-dessus des toits. Trop inquiet, trop préoccupé pour s'astreindre à une besogne calme, il ne lisait aucun livre qu'on lui avait apporté et ne cherchait pas à se distraire par un travail quelconque. Au moment des récréations, il s'accoudait à l'appui de la fenêtre ouverte et il écoutait le bruit lointain des cours, ce bourdonnement familier et confus qui, seul, lui révélait qu'il y eut là, près de lui, de la vie, du mouvement. Et son esprit retournait là-bas. À travers les murs, il revoyait les cours égayés de mille jeux, les figures animées, les gestes souples de ses camarades, les pères sous les ormes, les batailles, les rires. Et c'était le toulique, appuyé contre la barrière avec son teint de phtisique et son dos voûté, le front déjà ridé comme un vieillard, apprenant ses leçons, têtu, opiniâtre, luttant de toute sa volonté contre la lenteur de son intelligence et les rébellions obstinées de sa mémoire. Et c'était Guy de Kerdaniel, entouré de sa bande, insolent, persécuteur. Et c'était Kéral, sautillant, en quête d'un malheureux à consoler. Et c'était encore la place vide aujourd'hui, leur place à Bolorec et à lui, sur les marches des arcades, où les moineaux s'inquiétaient de ne plus les voir et de ne plus écouter leurs chansons. Toute chose, tout visage qui allait s'effacer, disparaître pour toujours. Que pensait-il de lui? Que disait-il entre eux de cette brusque, imprévue séparation? Rien sans doute. Un enfant arrive, on lui jette des pierres, on le couvre d'insultes. Un enfant s'en va et c'est fini. À un autre. Ce qui l'étonnait, c'est que le père de Kern ne fût point venu le visiter. Il lui semblait qu'il l'aurait dû, au moins qu'il aurait dû s'enquérir de sa détresse, lui prouver que tous les sentiments de pitié n'étaient pas morts en son cœur. Le père de Kern ne vous a pas parlé de moi ? Demandait-il au frère, chaque fois que celui-ci entrait dans sa chambre.
Et comment voulez-vous que le révérend père me parle de vous ? Je ne suis rien, moi. Un lion, monsieur Sébastien Roch, ne parle pas à un ver de terre.
Cela lui causait une véritable affliction, à laquelle se mêlait du dépit, le dépit de n'être rien dans la vie de cet homme, pas même un remords. Livré à soi-même, la plupart du temps, assis ou couché sur son lit, le corps inactif, il se défendait mal aussi contre les tentations qui revenaient plus nombreuses, plus précises chaque jour, contre la folie déchaînée des images impures qui l'assaillaient, enflammant son cerveau, fouettant sa chair, le poussant à de honteuses rechutes, immédiatement suivies de dégoût, de prostration, où son âme sombrait comme dans la mort. Il dormait ensuite, d'un sommeil agité, douloureux, coupé de cauchemars, de suffocations, et ses réveils étaient affreux, comme s'il sortait de la lourde, de l'épouvantable nuit d'un suicide. Le quatrième jour, au matin, il dit au frère qui le ramenait de la messe, « Savez-vous si mon père est arrivé ?»«
Et que voulez-vous que je sache, monsieur Sébastien Roch ?»
C'est vrai, la réponse était prévue. Cependant, il s'irritait. Il en avait assez de cette incertitude, de cette solitude, de cette terreur de toutes les minutes, d'entendre la porte s'ouvrir et de voir soudain apparaître son père furieux, menaçant. Il voulait sentir quelqu'un, là, près de lui, parler à quelqu'un. Il pensa au père de Marelle, le moins sévère, le plus souriant de tous les pères, et d'un ton bref, il commanda. « Je veux parler au père de Marelle. Allez prévenir le père de Marelle que je veux lui parler, tout de suite. Mais ça ne se fait pas comme ça, monsieur Sébastien Roch. Lui parler tout de suite, oh, grand Saint-Ignace. D'abord, il faut que vous adressiez par mon entreprise une demande motivée au très révérend père recteur. Le très révérend père recteur, dans sa sagesse, statuera sur l'opportunité de votre demande et... » Mais Sébastien l'interrompit, colère, trépignant le plancher. « Je veux, je veux, je veux !» Le frère ne se démonta pas, prépara lentement une feuille de papier et, très humble, très formaliste, il dicta à l'enfant une demande qu'il alla immédiatement porter au père recteur. Une heure après, le père de Marelle entrait chez Sébastien.
« Ah, oh, malheureux enfant » soupira-t-il. « Malheureux enfant !»
Sa figure était triste et non sévère. Et sous le masque de tristesse, elle conservait une bienveillance extrême. Il répéta « Oh, malheureux enfant !» Puis il se tut et s'assit en poussant un gémissement. Sébastien ne savait plus que dire. Il avait voulu voir le père. Il avait voulu se décharger en lui de tout ce que son cœur avait de trop pesant. Et il ne trouvait plus un mot. La bouche glacée, stupide, il baissait la tête. Le père gémit encore, en chassant quelques grains de poussière sur la table. « Est-il possible ?» et se tut de nouveau. Après un silence embarrassant, il interrogea « C'est ce Bolorec, n'est-ce pas ?» Comme Sébastien ne répondait point « C'est ce Bolorec, réitéra-t-il, ce Bolorec qui vous a entraîné, qui vous a perverti, parbleu, c'est bien évident. » Sur une dénégation de l'enfant, il ajouta vivement « Ne le défendez pas, ce Bolorec est un monstre. » Alors, à l'idée de défendre Bolorec, Sébastien retrouva un peu de courage. Il bredouilla.
« Je vous jure, mon père, je vous jure devant Dieu que ce n'est pas Bolorec,
Boulourec était bon avec moi. Nous n'avons rien fait, jamais, je vous le jure. »
Pourquoi mentir ? Reprocha le père d'une voix attristée.
Mais je ne mens pas, puisque je vous le jure, puisque je vous dis la vérité.
Ta 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 ! Vous ne pouvez pas nier qu'on vous ait vu, qu'on vous ait surpris ensemble. Allons, voyons, mon enfant, on vous a surpris.
Et tout d'un coup, la lumière se fit dans l'esprit de Sébastien. À la clarté foudroyante de cette lumière, il comprit tout. Il comprit que le père de Kern avait inventé une horrible histoire, qu'il les avait dénoncés, Bolorec et lui, lâchement dénoncés, parce qu'il redoutait Sébastien, parce qu'il avait peur qu'un jour, il n'allât crier sa faute. Ce n'était point assez de l'avoir déshonoré, lui, Sébastien. Il voulait aussi déshonorer Bolorec. Ce n'était point assez de l'avoir souillé, lui, Sébastien, dans la nuit. Il voulait que cette souillure apparût au grand jour. D'abord, il lui fut impossible d'articuler une parole. Sa gorge serrée ne laissait passer que de rauques sifflements. Puis, peu à peu, à force de grimaces musculaires, à force de volonté, les yeux agrandis d'horreur, presque fous, il s'écria
« C'est le père de Kern qui m'a !»« Oui, c'est lui, la nuit, dans ma chambre, c'est lui, lui, il m'a pris, il m'a forcé !»« Mais taisez-vous donc, petit malheureux !»
ordonna le père de Marel, devenu très pâle et qui, bondissant de dessus sa chaise, secouait rudement Sébastien par les épaules.
« Taisez-vous donc ! C'est lui, c'est lui ! Et je le dirai à tout le monde !»
En phrases courtes, hachées, sursautantes, avec une sincérité qui ne ménageait plus les mots, avec un besoin de se vider d'un seul coup, de ce secret pesant, étouffant, il raconta la séduction, les causeries au dortoir, les poursuites nocturnes, la chambre. Il raconta ses terreurs, ses remords, ses tortures, ses visions. Il raconta le pèlerinage de Sainte-Anne, la conversation avec Bolorec, ses rechutes solitaires, la salle de musique. Le père de Marel était atterré. Devant cette confession, il ne pouvait plus douter. Et il marchait maintenant dans la chambre à grands pas, traçant des gestes incohérents, exhalant d'incohérentes exclamations. Quand Sébastien en fut à l'épisode du violon,
« Et c'est cette satanée musique » clama-t-il, « cette sacrée musique du diable. Sans ce violon, il ne serait rien arrivé, rien, rien. »
Sébastien, ayant fini de compter, répétait,
« Et je dirai, oui, oui, je le dirai à mes camarades, je le dirai au père recteur. »
Devant la gravité de cette inattendue et irrécusable révélation, le premier instant de stupeur passé, le père ne fut pas long à recouvrer ses esprits. Il laissa Sébastien se dépenser en cris, en menaces, en effusions tumultueuses, sachant bien qu'un abattement succéderait vite à cette crise, trop violente pour être durable, et qu'alors il pourrait le manier à sa guise, en obtenir tout ce qu'il voudrait par le détour captieux des grands sentiments. Chez cet homme, bon pourtant, dans les ordinaires circonstances de la vie, une pensée dominait en ce moment toutes les autres. Empêcher la divulgation de ce secret infâme, même au prix d'une injustice flagrante, même au prix de l'holocauste d'un innocent et d'un malheureux. Si petite que fût cette petite créature, de si mince importance que demeurassent aux yeux du monde les accusations d'un élève renvoyé, il en resterait toujours, même l'événement tournant en leur faveur, un doute vilain
et préjudiciable à l'orgueilleux renom de la congrégation. Il fallait éviter cela, aujourd'hui surtout, que la malignité publique était encore excitée par l'aventure scandaleuse d'un des leurs, surpris en wagon, avec la mère d'un élève. Cette impérieuse nécessité, cette espèce de raison d'État, étouffant en lui toute émotion, toute pitié, le rendait presque complice du père de Kern. Il le sentait et ne se reprochait rien. Consciemment, il redevenait le jésuite fourbe, le prêtre implacable, sacrifiant la générosité naturelle de son cœur à l'intérêt supérieur de l'ordre, immolant à la politique ténébreuse un pauvre être, victime d'un attentat odieux que lui, chaste, il détestait et maudissait. À cette seconde, il éprouvait même contre l'enfant, possesseur d'un tel secret et qui n'en était pas mort, la haine qu'il eût dû éprouver contre le père de Kern seul et qu'il n'éprouvait point. Bientôt, la colère de Sébastien s'atténua et mollit. Les larmes vinrent, et avec les larmes, la détente nerveuse qui peu à peu le laissa sans force, sans résistance, le cerveau meurtri, les membres lourds, affaissés comme un paquet inerte sur la chaise. Le père de Marel s'assit près de lui, l'attira doucement presque sur ses genoux, l'enveloppa de paroles tendres, enfantines et berceuses. Au bout de quelques minutes, le voyant apaisé, engourdi, « Voyons, mon enfant, êtes-vous plus calme maintenant? Puis-je vous parler raison? Voyons, écoutez-moi, je suis votre ami, vous le savez, je vous l'ai prouvé. Rappelez-vous votre fuite, le jour de votre arrivée ici. Rappelez-vous nos leçons de musique, nos promenades. Eh bien. » Paternellement, il essuya les yeux de l'enfant que des larmes gonflaient et tamponna son visage à petits coups avec un mouchoir. Eh bien, en admettant que ce crime soit vrai. Sur un mouvement de Sébastien, il se hâta d'ajouter, en manière de parenthèse, « Et il l'est, il l'est !» Puis il reprit. « En admettant qu'il soit vrai, et il l'est, certainement, n'en êtes-vous pas le complice, un peu » C'est-à-dire, pouvez-vous faire qu'il n'ait pas été consommé ?« De toutes les façons, mon pauvre enfant, vous devez en subir le châtiment. » « Comprenez-moi, le père de Kern sera puni, oh, puni avec une sévérité terrible. Je me charge d'avertir le père recteur, qui est la justice même. Il sera chassé de cette maison, envoyé dans une mission lointaine. Mais vous, réfléchissez, pensez-vous sincèrement que vous puissiez rester ici? Pour vous-même, pour nous, qui vous aimons tendrement? Non, vous ne le pouvez pas. Ce serait irriter une blessure qu'il faut guérir, et guérir vite. Vous allez, dites-vous, révéler le crime à tous, le crier partout. Qu'obtiendrez-vous de cette vilaine action? Sinon, un surcroît de honte. À ce crime qui doit demeurer secret, et non impuni, vous aurez ajouté un scandale sans aucun bénéfice pour vous. Vous aurez réjoui les ennemis de la religion, désolé les âmes pieuses, compromis une cause sainte, et vous vous serez tout à fait déshonoré.
Non, non, je connais votre caractère. Vous ne ferez pas cela. Certes, je vous plains. Ah, je vous plains de toute mon âme. Mais je vous dis aussi, acceptez courageusement l'épreuve que Dieu vous envoie. Sébastien essaya de se dégager, et il soupira d'une voix encore tremblante de sanglots.
Dieu ! On me parle toujours de Dieu ! Qu'a-t-il fait pour moi ?
Le père devint solennel et presque prophétique. Dieu vous donne la douleur, mon enfant, prononça-t-il d'une voix grave et basse. C'est qu'il a sur vous des desseins impénétrables. C'est que peut-être vous êtes l'élu de quelque grande œuvre. Oh, ne doutez jamais, même au milieu des plus atroces souffrances, de l'infinie et mystérieuse bonté de Dieu. Ne la discutez pas. Soumettez-vous. Quelques larmes que vous versiez, de quelques calices d'amertume que vous soyez abreuvés, élevez votre âme et dites. Et montrant le ciel de son doigt levé, il récita avec un accent de religieuse inspiration « In te domine, speravi, non confundar in aeternum. » Le père demeura ainsi plusieurs secondes, le doigt en l'air, le regard planté droit dans celui de Sébastien. Et tout d'un coup, saisissant ses mains, attendri, chaleureux, presque larmoyant, il supplia. Promettez-moi de partir sans haine de cette maison. Promettez-moi d'accomplir noblement ce sacrifice. Promettez-moi de garder toujours le silence sur cette affreuse chose. Sébastien n'avait jamais senti autant le mensonge peser sur lui, mais il était trop brisé par les secousses morales, trop anéanti par les successives émotions pour s'en indigner. Il n'avait plus que du dégoût pour ce père, le seul pourtant en qui, autrefois, il eût cru, le seul en qui il eût trouvé un peu de bonté. Il était écœuré de ces paroles graves qui s'accordaient si mal avec ce visage gras où, malgré tout, sous le masque changeant de la tristesse, de l'émotion, de l'enthousiasme, persistait un reste de bonne humeur insouciante et de jovialité comique, lesquels, au fond, acceptaient l'infamie. Il répondit, « Je vous le promets. » Jurez-le-moi, mon enfant, mon cher enfant. » Sébastien eut aux lèvres un pli amer. Cependant, il répondit encore résigné, « Je vous le jure. » Alors, le père exulta.
« C'est bien cela, c'est très bien. Oh, je savais que vous étiez un brave enfant. »
La face redevenue toute joviale, il interrogea. « Voyons, avez-vous quelque chose à me demander ?»«
Non, mon père, rien. »
Que je vous embrasse au moins, mon enfant, si vous voulez. » Et Sébastien sentit sur son front le baiser visqueux de ses lèvres encore barbouillées de mensonges. Il s'arracha, révolté, à cette étreinte qui lui était aussi odieuse que celle du père de Kern, et il dit « Maintenant, mon père, laissez-moi, je vous en prie, je désire être seul. » Lorsque la porte se fut refermée, derrière le père, Sébastien respira plus librement et il s'écria tout haut, dans une révolte suprême de dégoût. « Oh oui, que je parte! Oh, quand vais-je partir d'ici ?» Le soir, il fut conduit de nouveau chez le père recteur. En entrant dans le cabinet, il aperçut son père debout, très pâle, gesticulant. Il était vêtu de sa redingote de cérémonie, tenait à la main son fameux et antique chapeau. Sébastien remarqua qu'à la hauteur des genoux, son pantalon noir était maculé de poussière. Il avait dû se traîner aux pieds de l'impassible recteur, l'implorer, le supplier. Cette apparition ne le surprit ni ne l'émut. Depuis 4 jours, il s'était préparé à revoir son père et à subir ses reproches. D'un pas calme, il se dirigea vers lui pour l'embrasser. Mais M. Roch le repoussa d'un geste brutal. « Misérable ! » vocéra-t-il. « Comment, misérable, tu oses ? Ne m'approche pas ! Tu n'es plus mon fils !» Sa colère était grande. Ses cheveux gris et son collier de barbe s'en trouvaient hérissés terriblement. Il bredouillait. Alors, Sébastien regarda le père recteur. Calme, digne, son beau visage à peine fardé d'une légère émotion de circonstance. « Sait-il ? » se demanda l'enfant. Et il chercha à lire dans ses yeux pâles où ne montait aucun reflet de sa pensée. M. Roch s'était remis à parler, la mâchoire lourde. Il débita, bégayant, « Une dernière fois, mon révérend père, une dernière et unique fois, j'ose vous implorer, ce n'est pas à cause de ce misérable. Il n'est digne d'aucune pitié. Non, non, mais quoi ? C'est moi, moi seul que cela frappe. Et je suis innocent, moi. J'ai une situation, moi. Je jouis de l'estime de tout le monde, moi. Je suis mère, sapristi. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne ? Si près des vacances, que voulez-vous que je dise ?
Je vous en prie, monsieur, répondit le père recteur. N'insistez pas. Ce m'est une douleur de vous refuser.
Au nom de Jean Roch, mon illustre ancêtre, supplia l'ancien quincaillier. Au nom de ce martyr qui mourut pour la sainte cause.
Vous me déchirez le cœur, monsieur. Je vous en prie, n'insistez pas.
Eh bien, je vais vous faire une proposition. Je ne vous demande pas de garder Sébastien tout à fait. Qui voudrait d'un pareil misérable ? Mais gardez-le jusqu'aux vacances. Gardez-le dans un cachot, au pain et à l'eau, si vous voulez, ça m'est égal. Au moins comme ça dans mon pays, ça n'aura pas l'air. Vous comprenez, ma situation n'en souffrira pas. Je ne serai pas obligée de rougir devant tout le monde. Ce que j'appelle, voyons, très révérend père, je suis disposée au plus grand sacrifice, quoique ce misérable m'en coûte déjà des mille et des mille. Voyons, je vous paierai sa pension double. »
Et sur un geste de protestation du jésuite, il ajouta vivement,
« Je vous paierai ce que vous me demanderez, na !»
Déjà, il tirait de sa poche sa bourse de cuir et, s'agenouillant, il l'attendait au jésuite dans un geste de supplication frénétique.
« Ce que vous voudrez, hein, ce que vous voudrez !»
Le père releva M. Roch et, visiblement choqué de cette scène, il dit d'un ton bref, « Du calme, monsieur, je vous en prie. Abrégeons cette entrevue qui nous fait du mal à tous les trois. » Alors, M. Roch tourna toute sa colère contre son fils et, le menaçant de son poing tendu,
« Misérable, bandit !» hurla-t-il. « Que vais-je faire de toi ? Se saigner aux 4 membres et être récompensé de la sorte ? Oh, misérable !»
Il frappa un grand coup sur le bureau. Quelques feuilles de papier tombèrent sur le parquet.
« Et d'abord, qui t'a appris ces saletés ? Qui ? Qui ? Dis-moi qui ! Mais les bêtes elles-mêmes ne font pas ça ! Un chien, oui, un chien, ne fait pas ce que tu as fait. Tu es pire qu'un chien !»
Le père recteur eut beaucoup de peine à le calmer. Sébastien souffrit cruellement de l'attitude de son père. Cet égoïsme grossier, cette vulgarité de sentiments, la mise à nu de cette âme dépouillée de son appareil d'éloquence majestueuse et comique, lui causèrent un invincible dégoût. Ce qui lui restait de respect, ce qui subsistait encore d'affection filiale, disparut en cette minute même dans la honte. Il comprit qu'il ne pourrait plus l'aimer, jamais, et qu'il était tout seul dans la vie. « Votre douleur est légitime, monsieur, » dit à monsieur Roch le père recteur en le reconduisant jusqu'à la porte. « Et je comprends votre colère, mais croyez-moi, ménagez un peu cet enfant. Une minute d'égarement n'engage pas l'existence. Il se repent. » « Il est bien temps, » soupira monsieur Roch. « Et vous croyez que c'est son repentir qui arrangera mes affaires et que je pourrai, après un tel scandale, me présenter aux élections du conseil d'arrondissement? C'est égal !» Il prit un ton amer, redressa sa taille courbée. « C'est égal. J'aurais cru qu'entre gens du même parti, qu'entre honnêtes gens, j'aurais cru qu'on se soutiendrait davantage. » Ils quittèrent Vannes le lendemain, au petit jour. Pendant le voyage, Monsieur Roch demeura sombre, irrité, la tête pleine de projets terribles et de punitions exemplaires. Sébastien, lui, regarda les champs, les bois, le ciel. Une pensée le préoccupait. Le père recteur savait-il? Qu'était devenu le père de Kern? Puis, il pensa à Bolorec. Où était-il? Que faisait-il en ce moment même? Il aurait voulu connaître son pays, Ploermel, afin de mieux se représenter, de mieux revivre, cet ami, cet unique ami des jours de tristesse, le seul qu'il regretta. Et il imaginait des landes pareilles à celles de Sainte-Anne, des landes où des filles dansaient et chantaient. Quand j'aurai 14 ans. L'arrivée à Pervenchères eut lieu de nuit, ce qui fut une consolation pour monsieur Roch. Pourvu qu'il n'y ait personne à la gare, quelle figure ferai-je? Avait-il dit souvent durant la route. Il n'y avait personne. Les rues étaient désertes. Ils purent gagner la maison sans être vus. Sébastien, relégué dans sa chambre et n'en sortant qu'aux heures des repas, ne put s'habituer tout de suite à ne plus se savoir au collège. Il croyait entendre les bourdonnements de la cour, entendre les chuchotements, les glissements le long des murs. Et quand la mère Sébron entrait, il sursautait. Pourtant, l'horizon n'était plus borné par des murs, des toits, des cheminées. C'était bien ces paysages aimés qu'il avait devant les yeux, les coteaux de Saint-Jacques lointains, poudrés de cendres bleues, la rivière, invisible dans les verdures de la prairie, dont on suivait la sinuosité charmante, par l'onduleuse ligne des peupliers et des aulnes. La route où passaient des gens qu'il reconnaissait, des charrettes de chez lui, des bêtes de chez lui. Mais il avait, en tous ses sens, l'étourdissement du collège, comme après un voyage en mer, l'on conserve longtemps encore dans les oreilles le bruit du vent, comme l'on ressent le mouvement de roulis du bateau. Il vécut ainsi 3 jours, trois jours d'engourdissement, sans souffrance, sans joie, sans pensée. Le quatrième jour, au matin, la mère Sébron entra dans sa chambre. Elle revenait du marché, essoufflée et toute rouge, n'avait pas eu le temps de déposer à la cuisine son panier plein de légumes.
« Ah, monsieur Sébastien, monsieur Sébastien, je crois bien que votre père est fou. Il déménage, c'est sûr. Faudrait que vous auriez entendu ça. Il était là sur la place, ameutant les gens, et colère, colère. Il disait, « Ah, je le materai, allez. C'est un misérable, mais je le materai. On n'a point l'habitude de voir monsieur dans ces états-là. Eh dame, ça impressionne. Il disait encore, « Quand je devrais lui rompre les os, il faudra qu'il marche, allez. » Et il racontait sur vous des horreurs, des horreurs. Non, sûr, c'est pas bien de sa part. Mais moi, je crois qu'il est fou. Faut faire attention, monsieur Sébastien, parce qu'avec les gens fous, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est-il vrai, dites, monsieur Sébastien, qu'on vous a pris avec un petit gars comme vous en train de... Vous savez bien.
Non, mère Sébron, ce n'est pas vrai.
Ah, je le savais bien, moi. Je vous dis qu'il est fou, monsieur.
Et elle ajouta en haussant les épaules.
Et puis, quand ça serait vrai, voilà-t-y pas, mon Dieu, de quoi t'en crier. Ah, dites donc, j'ai rencontré aussi mamselle Marguerite. Depuis 5 mois, elle a bien grandi. Justement, dimanche dernier, elle a étreigné ses robes longues. C'est une gentille enfant. Elle s'est informée de vous. Ah, dame, faut voir. Elle m'a demandé si vous aviez de la barbe. Voyez-vous ça? Non. Où ça va-t-il chercher de pareilles idées? Des gamines comme ça. Pour en revenir à monsieur, je crois bien. Non, là, vrai, je crois bien qu'il est fou.
Au déjeuner, il parut en effet à Sébastien que son père était plus excité encore que de coutume. Il mangeait avec une rage grondante, ses gestes étaient d'une brusquerie telle qu'il cassa un verre et fendit 2 assiettes. Cela l'exaspéra davantage. Et tout à coup, « Ah, ça !» fit-il. « T'imagines-tu que je vais te garder ici, à rien faire, te nourrir à rien faire ? Dis, t'imagines-tu une pareille absurdité ? Tu me crois sans doute un imbécile ?»
Sébastien ne répondit pas.
« Eh bien, mon garçon, tu te trompes. Demain, je t'emmène à C, au petit séminaire de C. Tu y passeras tes vacances. » Tu y passeras toute la vie. »
Il s'anima et, la bouche pleine de ragoût, il répéta, jurant pour la dernière fois,
« Toute la vie, nom de Dieu, as-tu entendu ?»
Sébastien frissonna. Il revit le collège, tout le collège, des murs étouffants, des classes maudites. Il revit des élèves haineux, des maîtres infâmes, le cortège tout entier, de ses déceptions, de ses souffrances, de ses hontes. Et, bien décidé à ne pas recommencer le supplice de cette existence, au seuil de laquelle, en entrant, il avait vu la mort, au seuil de laquelle, en sortant, il avait trouvé le déshonneur et l'ignominie, il se leva de table, courageux, regarda bien en face son père, dont le visage blêmissait, dont la voix s'enroquait de colère, et il dit d'un ton calme, ferme, définitif, « Je n'irai pas. » À ces mots, M. Roch faillit s'étrangler. Ses yeux virèrent, injectés de sang, dans les paupières écarquillées par la fureur.
« Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as osé dire ?»
Ces paroles sifflaient, sortaient, avec peine de la gorge contractée. Sébastien répondit, « Je n'irai pas.
Quand je devrais t'y traîner par les cheveux, misérable, tu iras.
Non, je n'irai pas. » Monsieur Roque perdit le peu de raison qui lui restait. La hideuse brute du meurtre était en lui déchaînée et hurlait. Hagard, les traits bouleversés, l'écume aux dents, il saisit sur la table un couteau, se rua sur son fils et, la main levée, sa grosse main dans laquelle brillait l'éclair tournoyant de la lame d'acier, il rugit « Tu iras, ou bien ?» Alors, Sébastien s'agenouilla aux pieds de son père. La tête haute, le regard résolu, il présenta toute grande sa poitrine au couteau et calme, un peu plus pâle seulement, il articula « Tue-moi si tu veux, je n'irai pas !» Vaincu, dompté par ce regard d'enfant, M. Roque laissa retomber à terre le couteau et il s'enfuit.